Guillaume Ouattara.
Midi 14 dans RFI Midi. C'est donc aujourd'hui que la première phase du cessez-le-feu entre Israël et le Hamas devait prendre fin. Depuis le 19 janvier, 25 otages ont été libérés, 8 corps restitués, 1500 prisonniers palestiniens libérés. Il reste désormais 58 otages à Gaza, dont 34 seraient morts, selon l'armée israélienne. La deuxième phase, censée débuter demain, devait permettre la libération des derniers otages et un retrait israélien total de Gaza. Mais les négociations sont au point mort. Israël veut prolonger la première phase pour obtenir des libérations progressives, tandis que le Hamas exige un accord global avec un cessez-le-feu définitif. Bonjour Pascal Boniface.
Bonjour.
Vous êtes géopolitologue, directeur de l'Institut des Relations internationales et stratégiques. Vous avez publié le mois dernier le livre « Israël-Palestine, une guerre sans limite ». C'est aux éditions des Arènes. Je le disais il y a quelques instants, demain devait commencer la deuxième phase. Elle ne va pas s'ouvrir.
Non, parce que les négociations n'ont pas abouti, elles n'ont pas repris d'ailleurs tout à fait. Donc on prolonge la première phase. Pour l'instant, il n'est pas prévu qu'il y ait une reprise des combats. C'est une prolongation de la première phase avec effectivement des désirs pour l'instant contradictoires. Israël demande à ce que les otages continuent d'être libérés, mais sans promettre son retrait total de la bande de Gaza. Et le Hamas n'est pas disposé à se priver de cet atout dans sa manche sans contrepartie et sans garantie. Donc peut-être qu'on assistera à quelques libérations, toujours otages contre prisonniers en nombre plus important. Mais pour l'instant, il y a à la fois un soutien dans les opinions publiques au maintien de cessez-le-feu, surtout que le Ramadan va commencer à Gaza et que les Israéliens espèrent la libération des otages qui sont encore prisonniers. Mais pour l'instant, donc, on n'a pas vraiment de certitude sur les scénarios à venir.
Pourquoi Israël ne veut pas se retirer, puisque c'était la condition pour le passage à la deuxième phase? Pourquoi Israël reste dans l'enclave de Gaza?
C'est pour des raisons de politique intérieure israélienne, c'est que les alliés extrémistes de Netanyahou ne veulent pas cela, eux ils veulent continuer la guerre, et Netanyahou, qui a déjà perdu un de ses deux alliés qui s'est retiré de la coalition, ne veut pas perdre le deuxième, donc il patiente, il procrastine, et en fait il a quand même promis cela à Donald Trump, et tout va dépendre aussi de l'attitude des États-Unis. Est-ce que les États-Unis vont pousser pour ce que l'accord qui avait été trouvé avec le soutien direct de Donald Trump soit réellement mis en œuvre ou non? Et donc, il y a une grande partie de la réponse qui est également à Washington concernant Israël. En fait, Netanyahou avait refusé cet accord de cessez-le-feu qui avait été déjà proposé par Biden en mai 2024. Il l'a accepté parce que même si Donald Trump n'était pas encore en pouvoir, il allait y parvenir bientôt et donc il fallait tenir compte de cela. Donc tout dépend aussi donc de cette relation entre Netanyahou et Donald Trump.
Et elle est comment cette relation aujourd'hui, puisqu'on a vu Donald Trump hier qui n'hésite pas à aller au devant avec Zelensky, à rentrer dans le dur. Avec Israël, comment ça se passe pour l'instant les relations?
On ne risque pas de voir une scène comme celle qu'on a vue hier entre Donald Trump et Netanyahou. Ils sont alliés, il y a un soutien très fort aux États-Unis à Israël et donc on ne risque pas de voir cela. Mais en même temps, Donald Trump n'aime pas trop qu'on se moque de lui. Il en veut toujours un peu à Netanyahou d'avoir rallié Biden après son élection en 2020, de l'avoir félicité alors que lui contestait le résultat. Mais en même temps, on sait très bien qu'il y a un lien très fort entre Israël et États-Unis et que Donald Trump est certainement le plus pro-israélien des présidents qui se sont succédés depuis très longtemps.
Ce statu quo, cette interphase, ça peut durer combien de temps? Qu'est-ce qui peut se passer? Quels sont les scénarios à partir de demain?
Le scénario, ça peut être la reprise des combats, mais une fois encore, là, Netanyahou irait contre son opinion publique. La reprise de combat voudrait dire être certain que les derniers otages ne rentreront pas vivants. Et on a vu notamment, lors de l'enterrement de la famille Bibas, qu'il y avait un fort soutien à ce que les autres otages soient libérés. Et donc, Netanyahou s'opposerait directement à la majorité de sa population. Donc, ça le retient, mais en même temps, c'est plus extrémiste et son entourage direct le pousse. Du côté du Hamas, ils n'ont pas trop d'options non plus. Une partie d'ailleurs de l'accord pourrait être l'exil de la direction du Hamas ou de la plupart de ses combattants, mais on ne sait pas trop où. C'est plus facile pour la direction que pour les combattants parce qu'il faut quand même accueillir beaucoup de monde. Et puis il y aura aussi le plan arabe pour savoir comment reconstruire Gaza, un plan qui prévoit la mise en place d'un gouvernement de techniciens sans le Hamas pour gérer Gaza. Tout ceci est un peu en train d'être discuté, ou en tous les cas sur la table. Et on peut très bien avoir une prolongation de cette première phase avec de nouveau des échanges. Mais il est vrai que jamais le Hamas ne libérera l'ensemble des otages tant qu'il n'aura pas de garantie sur la permanence du cessez-le-feu.
Pascal Boniface, je rappelle que vous êtes géopolitologue. Une dernière question. La deuxième phase n'a pas encore commencé, qu'on ne peut s'empêcher de se demander si la troisième phase, qui prévoit l'arrêt définitif des combats et la reconstruction de Gaza, aura lieu un jour.
Oui, c'est toute la question, parce que Netanyahou y est tout à fait opposé, et donc il y a vraiment, on sait très bien que c'est cette troisième phase qui sera le plus compliquée. C'est déjà compliqué de voir comment on peut reconstruire Gaza par rapport à l'État, où est Gaza aujourd'hui, mais c'est surtout la décision politique. Est-ce que l'on va reconstruire si les combats doivent repartir? Qui va payer la note si on pense que les combats peuvent repartir un ou deux ans après? Personne, donc il faudrait un accord définitif, non pas d'un cessez-le-feu, mais d'une paix durable, qui est loin d'être.
Merci beaucoup Pascal Boniface. Je rappelle que vous êtes géopolitologue, auteur du livre Israël-Palestine, une guerre sans limite aux éditions Les Arènes. Merci d'être venu sur RFI.